Bonsoir, merci d'être avec nous pour le meilleur de l'info. Ce soir, avec nous, le général Bertrand Cavalier. Bonsoir, expert en sécurité. Je suis heureux de vous avoir. Noémie Alioua, vous êtes journaliste, essayiste. Vous avez écrit un livre sur l'amour, mais on ne va pas beaucoup parler d'amour ce soir. Et je le regrette, sachez-le. Bonsoir, Jonathan Murphy. Vous êtes le président du CRIF et c'est vers vous que j'ai envie de me retourner pour commencer cette émission parce qu'on a parlé longuement chez Pascal Praud. Notre ami Gilles Taïeb s'en est allé. Gilles est venu souvent ici parler de la lutte contre l'antisémitisme, défend la communauté juive, le voilà ici. C'était à l'occasion des 100 jours pour réclamer la libération des otages. Il y a eu cette petite vidéo d'ailleurs avec Emmanuel Macron. Il avait un talent fou pour réunir les gens, il avait un talent fou pour fédérer. Il avait, je crois, je ne trahis pas un secret en disant qu'il avait un très bon rapport avec le chef de l'État qui lui avait même proposé hein, de faire cette petite vidéo et c'est important pour lui de communiquer son enthousiasme à tous.
Oui, c'est une perte immense pour tous, c'est une perte pour ceux qui l'ont connu, c'est une perte pour les institutions juives qui perdent un pilier réellement, mais je crois que c'est une perte pour la société française aussi parce qu'il avait une manière d'être engagé dans la cité. Il avait monté un festival de musique dans le 11e arrondissement de Paris aussi. Il était capable de dialoguer avec tous. Il avait deux qualités qui, pour moi, le rendaient exceptionnel. D'abord, le refus du défaitisme. Il a toujours considéré que quand on est militant, on pense qu'on peut changer les choses, qu'on peut changer son environnement, que même si les ennemis sont nombreux et parfois impressionnants, on n'a pas peur et on y va. Et puis la deuxième chose, il avait un amour de la vie qui était une forme de rayonnement qu'il partageait avec les autres.
Ouais, on pense à son épouse, Karen, on pense à ses trois garçons. Il avait trois garçons. Je voulais vous montrer juste une séquence, c'était l'un de ses derniers passages sur l'antenne de CNews, c'était le 12 février dernier.
Moi, si j'étais un musulman français, je me sentirais insulté.
D'être défendu
par des gens pareils qui voudraient me prendre pour un imbécile, pour un criminel, pour un assassin et pour un homme sans cœur. J'espère que les musulmans vont s'exprimer et vont se débarrasser de ces gens-là. Mais dans cette hypocrisie, il faut aussi que nos gouvernants assument. Vous êtes du côté d'Israël ou vous êtes contre. Vous êtes du côté de la démocratie ou vous êtes contre. On ne peut pas faire un pas en avant et un pas en arrière. On ne peut pas demander à Israël de négocier avec le Hamas. Le Hamas, ce sont des criminels qu'il faut éliminer.
Voilà, discours toujours très clair. On avait fait ensemble, vous avez présenté le documentaire sur le festival Nova. D'ailleurs, on reparlera tout à l'heure de Nova, le festival Raïm. Mais il avait été toujours là. Depuis, je crois qu'il est adolescent. Il avait commencé son combat au lycée pour défendre les Juifs de France.
Oui, c'est une vie entière d'engagement. Son foyer, son couple avec sa femme Karen était centrée autour de ses engagements partagés, des engagements pour la République, contre l'antisémitisme, pour Israël, pour la cause des Juifs de manière générale, avec toujours le sourire qu'il a gardé jusqu'aux derniers instants, y compris dans son combat contre la maladie, le sourire qu'il partageait dans ses combats militants depuis toujours.
On est venu nous arracher l'un à l'autre alors que nous avions construit une vie d'inséparable bonheur d'être toujours ensemble à chaque instant de notre vie, main dans la main avec nos merveilleux enfants. On n'a jamais imaginé l'impossible, c'est-à-dire cette séparation. Et je sais que Karen Hirson me disait « c'est un homme parfait ». Il n'avait aucun défaut, il était parfait en tout. C'était très touchant, il sera enterré demain ou après-demain en Israël. On va parler évidemment d'Israël, on va parler de la riposte israélienne. Dans un instant, on sera avec le colonel Olivier Rapovitch, porte-parole de l'armée israélienne. Vous le savez, l'Iran ne sortira pas indemne de l'agression subie samedi soir par Israël. Ce sont les mots de l'armée israélienne. Il y aura une riposte pour empêcher l'Iran de recommencer. Le message donc ce soir de Tzahal est très clair. On va écouter d'abord le porte-parole de l'armée, Daniel Agari, qui a présenté à la presse le type de missile balistique énorme qui a été intercepté samedi soir.
Nous ne pouvons pas rester les bras croisés face à une telle agression. L'Iran ne s'en sortira pas indemne. L'Iran savait que lorsqu'il tirait plus de 110 missiles balistiques, en plus des missiles de croisière, des roquettes et des drones, le fait de tirer 110 missiles balistiques constituait une escalade dans la région, une escalade dangereuse. Si ces missiles balistiques avaient touché Israël, cela aurait eu des conséquences dangereuses pour la région. Nous répondrons de la manière que nous choisirons, au moment que nous choisirons. Nous n'avons pas seulement des capacités défensives qui ont été prouvées samedi soir, nous avons des capacités offensives et nous saurons quoi faire, quand le faire et comment le faire.
Avant d'explorer les différentes ripostes possibles de la part d'Israël, colonel Rafovitch, d'abord essayer de comprendre ce que sont ces missiles, parce qu'on les a aperçus, on va sans doute les voir en plus gros plan. C'est assez énorme, ça fait plusieurs mètres de long. Vous voyez ici la photo, mais on a également des images. Ce sont des missiles balistiques très très impressionnants. Il y en a 110 qui sont tombés sur Israël, qui ont été interceptés à 99%.
Avant de commencer, si vous permettez, je voudrais juste vous dire que, également en Israël, une grande tristesse par rapport au départ prématuré de M. Gil Taïeb. Et nous envoyons d'Israël, de toutes les villes d'Israël, nos condoléances à la famille Taïeb, à son épouse, à ses enfants. C'est un grand, grand défenseur de l'État d'Israël. Maintenant, par rapport à votre question, j'étais moi-même tout à l'heure dans cette base où on a présenté à la presse ce missile balistique avec une charge explosive de 450 kg, presque une demi-tonne. Il faut savoir que s'il n'y avait pas en Israël les moyens d'interception, les différents moyens qu'on a pour détruire des missiles en vol, un tel missile peut détruire un quartier et faire des centaines de morts. Et l'Iran en a tiré plus de 110 avec des missiles de croisière et des drones qui, eux, n'ont pas réussi à atteindre le territoire israélien. Mais il est clair qu'il y a ici un acte délibéré de vouloir faire des victimes et des destructions en Israël. Et ce missile est important que le monde le voit pour voir de quelle manière les Iraniens ont tenté, il y a à peine deux jours, d'attaquer l'État d'Israël.
Encore une fois, on voit les images, Gérald Cavalier, c'est une machine impressionnante. C'est plusieurs mètres de long, ce tube, bourré d'explosifs, porté d'environ 2000 kilomètres. Enfin,
c'est un missile balistique. Et l'opinion publique doit bien comprendre que ces missiles ont eu un effet hautement destructeur. La plupart ont été interceptés. Donc l'opinion publique ne réalise pas pleinement que l'Iran voulait frapper très durement Israël. 100 missiles balistique avec des charges donc explosives de plusieurs centaines de kilos. Quand l'Iran disait qu'il voulait être sélectif, c'est faux. Ça a eu des effets très destructeurs et au détriment notamment des populations.
Alors, 185 drones également, 36 missiles de croisière en plus. Selon les experts, les armes tirées ce week-end sont plus sophistiquées que tout ce qu'Israël a rencontré jusqu'à présent en 6 mois de combat avec le Hamas et ses alliés dans la région. Et paraît-il, vous avez sans doute confirmé cette information, que l'un de ces missiles a été même intercepté dans l'espace.
Tout à fait, ce sont des missiles balistiques, c'est-à-dire qui traversent l'atmosphère, qui sont en fait, qui traversent jusqu'à la stratosphère pour ensuite redescendre vers l'objectif. Je vous rappelle qu'on a également détruit des missiles balistiques qui provenaient de l'Iran, qui auraient pu toucher également Jérusalem, voire même les lieux saints de l'islam. Il y a ici une volonté, encore une fois, extrêmement gravissime de l'Iran et des forces iraniennes d'avoir essayé, en fait, de tuer des milliers d'Israéliens et de détruire des endroits très nombreux en Israël. Encore une fois, sans les moyens sophistiqués que nous avons au niveau de l'interception, qui sont divisés en trois grands niveaux, le niveau de Dôme de Fer, le niveau de la Fronde de David et le niveau de Arrow 3, les systèmes missiles antimissiles de type Flèche 3 en français, eh bien, ça aurait été une véritable catastrophe, il faut le dire, il faut le voir, pour comprendre l'amplitude, l'ampleur de l'attaque iranienne sur Israël. Et c'est vrai que si nous comparons avec le Hezbollah, avec le Hamas, nous sommes ici dans un tout à fait différents ordres, de type d'armes, de type d'attaques.
C'est tout à fait une autre échelle. Autre commentaire de l'armée israélienne ce soir, c'est de dire qu'Israël ne cherche pas l'escalade, mais cherche à envoyer un message extrêmement ferme dans sa riposte à l'Iran. Écoutez.
Il y a toujours une crainte d'escalade, mais nous ne la cherchons pas. Nous voulons nous assurer que l'Iran ne le fera pas. Nous ne pouvons pas rester sous la menace de ces missiles balistiques. Nous devons envoyer un message très clair pour que l'Iran ne recommence pas. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi le fait que l'Iran, au fil des ans, a été très, très actif dans notre région. Mais ils sont restés dans les coulisses. Samedi soir, ils sont passés sur le devant de la scène avec leurs mandataires du Hezbollah, des Houthis, du Hamas et en opérant à partir de l'Irak. Ils ont encerclé Israël dans un cercle de feu. C'est inacceptable. Nous devons faire en sorte qu'ils ne puissent pas réussir dans leurs intentions diaboliques.
Pas de d'escalade, ou en tout cas une riposte dans la désescalade, c'est un peu compliqué peut-être à expliquer, Noémie Alua.
Oui, exactement. Alors on ne sait pas encore quel scénario a été décidé par les autorités israéliennes. Ils ont expliqué ce soir qu'en tout cas ils avaient arrêté ce fameux scénario. On sait qu'il y aura une riposte. Maintenant la question c'est de savoir de quelle ampleur sera cette riposte. On sait qu'on est au Moyen-Orient et qu'au Moyen-Orient, si vous voulez, il faut montrer la force et il faut rétablir le pouvoir de dissuasion. Israël ne peut pas montrer qu'il a été attaqué, qu'il ne réagit pas. Sinon ce serait interprété comme un signe de faiblesse. Israël va donc réagir. De quelle façon? C'est là toute la question, si vous voulez. Est-ce qu'Israël va attaquer directement l'Iran, éventuellement des centrales nucléaires? Est-ce qu'il va plutôt attaquer des proxys? Il pourrait attaquer éventuellement certaines milices qui ont établi leur base en Syrie, en Irak. Le Hezbollah aussi, on sait qu'il y a eu de part et d'autre de la frontière des échauffourées avec des attaques du Hezbollah, des
réunions
israéliennes, aujourd'hui, comme quasiment tous les jours depuis le 7 octobre. Donc, si vous voulez, c'est la question de savoir comment est-ce qu'Israël va réagir, sachant que l'Iran a déjà prévenu qu'ils allaient eux aussi réagir de façon extrêmement extrêmement forte. Donc il y a toujours...
Pour déjà dire, on va riposter à la future riposte.
Voilà, exactement. Ce danger de l'escalade, il est bien réel.
Oui, moi, ce qui me frappe, c'est la manière dont le monde, au fond, voudrait décider à la place d'Israël, ce qu'Israël doit faire ou non suite à cette attaque. C'est le seul pays au monde pour lequel on considère que ce devrait être l'ensemble des autres pays qui devraient, d'une certaine manière, décider à la place du pays qui a subi l'attaque, s'il doit réagir et de quelle manière. Donc, c'est une décision qui appartient aux Israéliens. Alors, effectivement, ça arrive dans d'autres configurations, mais néanmoins, c'est systématique sur le cas d'Israël.
Oui, mais c'est très difficile d'intégrer le fait qu'il y ait plusieurs fronts. C'est-à-dire qu'il y a un front très compliqué, celui du Hamas, des terroristes, qui n'est pas totalement terminé, loin de là. Et puis, il y a ce deuxième front qui paraît encore plus dangereux, encore plus terrible, qui est même diabolique. C'est ce que disait ce militaire il y a un instant, qui est celui de l'Iran, général.
Alors l'Iran, là, par cette action de force, a également donc stupéfait notamment les puissances environnantes, les États arabes. Donc Israël sort de cette attaque, il a heureusement neutralisé dans une position de force. Position de force parce que les États environnants ont permis, en tout cas ont coopéré, notamment la Jordanie avec Israël. Deuxièmement, les opinions occidentales, là, se reviennent à une grande lucidité, car elles avaient été quand même travaillées par certains médias. Il y a eu des actions de déstabilisation pour commencer à incriminer Israël. Donc je crois qu'Israël doit tenir compte de tous ces atouts dont Israël dispose aujourd'hui pour bien identifier l'effet final recherché. Et par rapport à cet effet final recherché, quelle est la façon dont Israël va répliquer ? Israël va répliquer, mais sans compromettre ce positionnement diplomatique qui aujourd'hui est plutôt très positif.
Oui, oui, c'est extrêmement intéressant, cette coalition des pays arabes qui ont aidé Israël à intercepter ses missiles et ses drones. Les Jordaniens l'ont confirmé, l'Arabie Saoudite l'a confirmé hier dans un communiqué. C'est extrêmement intéressant parce que beaucoup disaient, si vous voulez, que l'Iran avait en partie fomenté le 7 octobre pour atteindre et pour saboter les accords d'Abraham. Et quelque part, qu'est-ce qu'on se rend compte aujourd'hui? Finalement, que ces accords d'Abraham n'ont jamais été aussi puissants, puisque l'Arabie Saoudite confie avoir aidé Israël à se défendre. Donc on voit véritablement là que l'Iran a tout perdu, y compris d'un point de vue diplomatique par rapport aux pays arabes.
Et je rajoute, si vous voulez, d'abord, souvent la diplomatie, les pays souvent adressent des messages pas qu'à Israël, si vous voulez, c'est pas... mais notamment les États-Unis, qui ont quand même joué un rôle clé, puisque ceux qui ont coordonné l'ensemble des moyens aériens, d'une certaine manière, sont en droit de demander à Israël de tenir compte d'un certain environnement. Donc voilà, si vous voulez. Et je note d'ailleurs que l'opinion publique israélienne est très partagée.
52% ce dont le dernier sondage qui se demande s'il faut ou non riposter. En tout cas, pour Georges Bensoussan, historien qui était ce matin l'invité de la grande interview, c'est une nécessité.
La riposte est inévitable parce que si c'est d'ailleurs la situation piégée dans laquelle est Israël, et depuis le 7 octobre d'ailleurs, hein, parce que si Israël ne répond pas alors que l'attaque vient d'Iran et que c'est une attaque massive avec 300 engins et 60 tonnes d'explosifs, ça signifie que sa capacité de dissuasion est entamée. Et si Israël riposte de façon trop massive, alors ça contrecarra les plans et les objectifs de l'allié américain. Donc la voie est très très étroite pour l'État d'Israël. Il ne peut pas ne pas réagir, mais il doit réagir de façon très intelligente, très mesurée. Comment? Je n'en sais rien, bien sûr, mais une chose est sûre, c'est qu'il ne peut pas ne pas réagir.
Colonel Rafovitch, Israël ne peut pas ne pas réagir, mais de manière très intelligente. Est-ce qu'on peut avoir une idée des scénarios?
Je vais vous répondre de manière très claire. Je ne vais absolument pas répondre à votre question et je pense que nous ne devons absolument pas parler de ce sujet-là dans le contexte actuel. Nous sommes toujours en guerre avec le Hamas. Nous avons toujours 133 otages, dont 3 Français, aux mains du Hamas sans aucune nouvelle et sans aucune visite de la part du CICR. L'Iran a attaqué Israël. Nous avons à 99% détruit les missiles par des interceptions à la fois grâce à l'armée de l'air israélienne, la technique israélienne également, la collaboration avec des pays alliés, amis et d'autres pays. Et au-delà de cela, je pense qu'il faut garder un calme, le silence et faire confiance aux autorités israéliennes au niveau du gouvernement qui est le seul et unique à prendre des décisions dans ce domaine-là.
Mais c'est-à-dire que sur le terrain aujourd'hui, dès que l'ordre est donné, tout peut être en place dans les heures qui suivent, colonel.
Je viens de vous le dire et je vais encore le répéter calmement. Vous avez vu de quelle manière nous avons opéré pour faire face à 330 missiles de croisière et drones qui voulaient détruire des villes en Israël et tuer des Israéliens. Les préparatifs étaient de telle sorte mis en place que l'opération de défensive a été un succès à 99%.
Oui. Juste une dernière chose, parce que en parlant des armements, là on a vu des drones qu'on appelle des Shahid, on en a parlé hier soir, qui sont un peu comme du consommable de drones en quelque sorte, c'est comme des Kalachnikov. Mais il y a d'autres armes dont disposent les Iraniens qui sont encore qui font encore plus peur. Il y a notamment ce Fatah 2 qui a une portée de 1400 km, une vitesse comprise entre 13 et 15 fois la vitesse du son, qui est une arme terrible, et les Iraniens disposent d'armes terribles. Donc on était peut-être qu'un échantillon en réalité, général.
Bon, moi je pense que quand même, ils sont loin de la supériorité technologique dont dispose Israël et ses alliés. Donc je reste très prudent sur l'avis donné, porté sur l'arsenal militaire iranien. Bon, ce qui est certain, c'est quand même que l'Iran l'a démontré là, une volonté de détruire une partie d'Israël. Maintenant, il y a une chose qui n'a pas été évoquée, c'est qu'il ne faut pas confondre la République islamique d'Iran et l'opinion publique iranienne. Je suis allé souvent en Iran, c'est-à-dire que la frappe, la riposte, ne doit pas compromettre le fait que la majorité de la population iranienne, cela n'est pas su, mais il faut le dire, elle n'est surtout pas anti-israélienne, voire pro-israélienne. Donc il faut également voir dans le moyen terme. L'ennemi, ce sont les gardiens de la révolution, ces mots-là, dont je rappelle quand même qu'ils ont été mis en place par l'Occident, notamment la France.
Mais l'ennemi, c'est aussi la crainte du nucléaire. Ça aussi, c'est important. Peut-être que demain, aujourd'hui, l'Iran n'a pas le nucléaire. Demain, après-demain, l'Iran disposera du nucléaire.
Comme le disait...
Donc la question, oui. Mais peut-être que le colonel Rafovitch va enfin répondre à une de mes questions.
C'est difficile.
Mais c'est compliqué, je comprends pour vous. Est-ce que Israël aurait les moyens de frapper en profondeur des zones qui serviraient à l'Iran, et notamment de base arrière nucléaire?
Je peux vous dire, de manière générale, vous le voyez dans tous les terrains d'opération, que ce soit avec le Hezbollah ou au Liban, le Hamas à Gaza, l'État d'Israël et Tsahal, depuis des années, se prépare à des scénarios multiples. Des scénarios multiples à tous les niveaux. Encore une fois, nous sommes un État qui est entouré de beaucoup d'ennemis, tous soutenus par l'Iran, armé par l'Iran, financé par l'Iran, et il faut faire confiance à Tsahal et faire confiance à Israël dans sa défense. Et d'autre part, juste un mot, si vous me permettez. La dernière opération de défense qui a eu lieu donc, il y a deux jours a montré aussi la mise en place d'une coalition avec des grands pays, des grandes puissances, américains, britanniques, français, d'ailleurs que nous saluons et que nous remercions, et également d'autres pays qui se sont joints à cette coalition contre la menace iranienne qui pose un problème majeur, pas seulement à Israël, mais également à beaucoup de pays arabes sunnites qui sont menacés par l'Iran. Et à ce moment-là, il y a ici une menace qui n'est pas seulement un problème israélien, mais un problème global. Dans ce cadre-là, il faut aussi être conscient que Israël n'est pas seul.
Merci beaucoup, colonel Rafovitz, d'avoir été en direct avec nous ce soir. On parlait de cette population israélienne qui est divisée. Régine Delfour, envoyée spéciale dans les rues de Tel Aviv, a rencontré des franco-israéliens qui sont plutôt pour une intervention. Écoutez.
Je pense qu'une réponse sera nécessaire, mais pas forcément immédiate.
C'est plutôt de l'envie de viser des infrastructures et non pas des centres d'habitation.
L'Iran est présent au Liban, l'Iran est présent en Irak, l'Iran est présent en Syrie, l'Iran est présent à Gaza, l'Iran est présent partout. Alors, si on laisse faire, si on continue à demander de la modération, à demander à Israël de la retenue, eh bien, on aura une guerre qui sera bien plus grave et bien plus pire peut-être dans quelques années.
Voilà, donc population divisée. Je voulais qu'on parle de la France, parce que en France, il y a des positions pro-palestiniennes, anti-sionistes. À Lille, Jean-Luc Mélenchon sera présent pour deux choses, me semble, demain. Ce sera d'abord le rendu de la décision de justice concernant un dirigeant de la CGT du Nord, mis en cause pour apologie du terrorisme et incitation à la haine raciale. Il risque 12 mois de prison. Et c'est ce fameux tract avait été produit le 10 octobre, trois jours seulement après le pogrom. Les horreurs de l'occupation illégale sont accumulées depuis samedi. Elles reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées. Et puis, il sera également présent pour participer à une réunion dans une fac. Alors là, vous allez voir l'affiche, on vous l'a montré déjà hier soir. Conférence à l'université de Lille, amphi B1, campus Pont de Bois. Et en bas à droite, vous avez ce petit logo, il est marqué Libre Palestine, Yonatan Arfi. Donc là, ce logo, c'est quoi? C'est la négation totale d'Israël.
Mais moi, je suis doublement scandalisé par cette conférence. D'abord parce que c'est faire rentrer, au fond, dans l'université, de l'apologie du terrorisme, parce qu'il y aura de l'apologie du terrorisme, on le sait. Jean-Luc Mélenchon est demain à Lille pour défendre ce militant CGT qui avait effectivement fait de l'apologie du terrorisme. Donc on a aujourd'hui un parti politique de premier plan qui assume de défendre quelqu'un accusé d'apologie du terrorisme et qui va donc tenir cette ligne-là, on le sait. Puis la deuxième chose, c'est parce que ce logo, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement qu'il n'y a plus d'État d'Israël. Il dit que la Palestine tout entière, de la mer au Jourdain, devrait être libérée. Et donc, libérée de quoi? Libérée de ses juifs. C'est tout simplement un appel à la négation du droit à l'existence de l'État d'Israël. C'est à proprement parler scandaleux et j'espère que cette conférence n'aura pas lieu.
Pour l'instant, elle n'est pas interdite. Ce qui est scandaleux, c'est de laisser faire Jean-Luc Mélenchon la tour des TFAC ou des amphis, parce qu'on a l'impression que c'est ce qu'il fait.
Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que les masques tombent finalement. Parce que qu'est-ce qu'il nous explique du matin au soir, Jean-Luc Mélenchon? Il nous explique que c'est simplement la critique du gouvernement de Netanyahou, d'extrême droite et compagnie, si vous voulez, et que la critique d'Israël devrait être autorisée, etc., etc. Là, les masques tombent. On comprend très bien que ce n'est absolument pas ce dont il est question. Il ne s'agit pas simplement d'une critique d'Israël, de Netanyahou, de la politique ou que sais-je. Il s'agit d'une négation fondamentale de l'existence d'Israël et de son droit à se défendre, à exister. Donc là, les masques tombent, si vous voulez, quelque part.
Georges Bensoussan également a réagi ce matin. Vous allez voir les mots qu'il emploie.
Quand je vois Rima Hassan sur cette photo que vous projetez, qui est en 7e position, je crois, éligible.
Sur la liste, tout à fait.
Or, son slogan, c'est Palestine libre, du fleuve à la mer. Qu'est-ce que ça veut dire, du fleuve à la mer? C'est l'élimination de l'État d'Israël. C'est un slogan génocidaire. Qu'un parti comme celui-là puisse promouvoir une candidate demain élue qui annonce la destruction d'un État et dont la destruction d'un État fait partie du programme, c'est une honte absolue pour la nation française. C'est le cas en France. C'est une honte absolue. Ce parti, LFI, c'est le parti qui me fait le plus penser au populisme de Doriot. L'authentique risque de fascisme en France, c'est Mélenchon et ses sbires.
Mélenchon, Doriot, même combat,
oui,
ça va
même
faire
combat.
Ce que vous dites.
Oui, même combat. Je suis assez historien pour le savoir, pour savoir ce qu'a été le PPF à partir de 1938-1939.
je suis assez historien pour le savoir. Vous êtes d'accord avec ce que dit Georges Bensoussan ?
Ce qui est important dans ce que dit Georges Bensoussan, c'est qu'il dit au fond qu'il n'y a pas seulement un antisémitisme à gauche, mais qu'il existe aussi un antisémitisme de gauche. C'est ça qu'il dit fondamentalement en faisant ce parallèle, en remettant cette généalogie d'un antisémitisme qui a une histoire au sein de la gauche, au sein de l'extrême gauche en particulier, et ce qui se passe en ce moment autour de la France insoumise, son choix de faire de la question palestinienne l'alpha et l'oméga de sa campagne aux européennes, le choix du clientélisme et du communautarisme comme stratégie politique, c'est une manière de cultiver ça, effectivement.
Dernière petite chose concernant les facs, certaines associations qui demandent à ce que les étudiants dénoncent des professeurs qui ne sont pas pro-palestiniens. Ça se passe en ce moment à Sciences Po. Le syndicat uni publie un message relayant le travail de la journaliste du Point, Nora Bussigny. Je crois que vous la connaissez.
C'est une collègue.
Vous connaissez bien. Elle a pris en photo une page d'un groupe, je pense que c'est un groupe WhatsApp de l'association SJP Sciences Po.
Absolument.
Students for Justice in Palestine. Et ce message, dans ce message, il est demandé de remplir un formulaire dans lequel il faut dénoncer les professeurs, les administratifs ou les autres étudiants qui ne sont pas pro-palestiniens. Le terme exact, c'est ceux qui censurent ou nient l'expérience palestinienne doivent être dénoncés.
Ça, c'est un témoin de plus, s'il en fallait un de plus, de ce qui se passe en ce moment dans le monde de l'enseignement supérieur français, dans les universités, à Sciences Po et ailleurs. Au fond, certaines des universités françaises sont devenues des universités américaines comme les autres, c'est-à-dire marquées par la même diffusion idéologique d'idées comme le wokisme, marquées par aussi un grand renversement au fond du pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir maintenant est entre les mains des étudiants et non plus entre les mains de l'administration et des enseignants.
Il y a quand même une ministre, il y a quand même Mme Retailleau qui ne dit rien d'ailleurs.
On l'invite évidemment à s'exprimer sur le sujet, elle l'a fait quelques reprises, il faut qu'elle le fasse davantage, et elle se heurtera malheureusement à la question de l'autonomie des universités. Moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est qu'on ait une réflexion collective sur qu'est-ce que c'est qu'une université.
C'est-à-dire l'autonomie des universités. C'est-à-dire, pour vous, elle ne peut rien faire.
Elle ne peut rien faire. Elle dira ce qu'elle peut faire. Elle peut faire, parce qu'elle peut peser, bien sûr, mais on a besoin que les universités mènent une vraie réflexion sur ce qu'est une université républicaine, entre guillemets, dans le cadre français, parce qu'on ne raisonne pas de la même manière que des universités. Pardon,
là, on laisse des amphis. On laisse des amphis, avec Jean-Luc Mélenchon, dire la négation d'Israël. On laisse des amphis ou des facs où on peut, on appelle à dénoncer. Je veux dire, quand même, on marche sur la tête.
Mais si vous voulez, Hannah Arendt avait dit que l'avènement totalitaire a manifestement pulvérisé nos critères de jugement et nos catégories morales. Ce qui se passe dans les universités françaises, c'est exactement cela. C'est le syndrome totalitaire. Et vous avez une forme de lignage, parce que ce n'est pas nouveau. Si on remonte un petit peu à quelques années, Camus, qui avait d'ailleurs été défendu par Hannah Arendt dans son combat contre notamment Sartre, qui était un tenant quand même du marxisme-léninisme. Après, vous avez le trotskisme, l'apologie du maoïsme. Des intellectuels qui saluent l'installation de Khomeini en Iran. Et aujourd'hui, vous avez les universités qui sont gangrénées par ce totalitarisme qui se traduit notamment par l'islam.
Dernier mot, parce que Yonatan Arfi doit y aller. Vous déposez systématiquement plainte dans ce genre de choses, par exemple contre Jean-Luc Mélenchon. Vous déposez plainte ?
Alors le CRIF n'est-ce pas en justice directement. On l'a fait exclusivement sur les attentats antisémites, que ce soit Toulouse, l'hypercacher. Mais je serais bien content de voir comment il serait demain dans un tribunal face à certaines des propos qu'il a pu tenir. La rhétorique de Jean-Luc Mélenchon est une rhétorique antisémite.
Et c'est une rhétorique totalitaire.
Bon, on va marquer une pause parce qu'il est 21h30. Merci beaucoup, Yonatan Arfi, d'avoir été avec nous. Je salue Simon Guilin. On est un peu en retard, mais il est quand même temps de rappeler les titres.
Bonsoir Olivier et bonsoir à tous. On commence avec ces images de l'armée israélienne qui viennent tout juste de nous parvenir. Celle de l'attaque qui a eu lieu plus tôt dans la journée contre un chef du Hezbollah dans le sud du Liban. Un avion de l'armée israélienne a donc éliminé aujourd'hui Ismail Youssef Baz et deux autres personnes ont été blessées. Un an après le lancement de l'opération Wambuchu, une opération Place Net a été lancée ce matin sur l'île de Mayotte. L'objectif est de lutter contre l'insécurité et l'immigration sur place. Près de 1700 gendarmes et policiers sont mobilisés pour une période de 11 semaines. Et puis la flamme olympique qui entame son périple vers Paris. Elle a été allumée ce matin à Olympie en Grèce. La nageuse française Laure Manaudou a été la troisième relayeuse à brandir la torche. Et dans son discours, Tony Estanguet a qualifié d'honneur le fait qu'elle soit la première éclaireuse française du relais, cher Olivier.
Merci beaucoup. Ces vestales vous ont... Je le sais, inspiré Vestal. Toute la journée. Vestal, oui.
Certes.
Oui. Après, je ne parle pas de Laure Manaudou, mais c'est une vieille tradition. C'est important, les vieilles traditions. C'est immuable, ça n'a pas changé.
Je ne sais pas si c'était les Vestales qui transmettaient la femme olympique. Hein, c'est pas ce rôle-là.
Bon, je n'y étais pas. Un mot quand même pour terminer sur ces facs françaises qui semblent, Jonathan Darfi le dit, plus de contrôle. Il n'y a plus de contrôle. À l'américaine.
C'est ce que ça dit de l'avenir. Parce que ces écoles, les écoles comme Sciences Po, c'est l'école de formation des élites. Donc ces jeunes étudiants-là qui sont contre la liberté d'expression, contre Israël, mais plus largement, plutôt wokistes, plutôt contre l'Occident, avec des idées très, très arrêtées et très sectaires, ces gens-là, demain, seront aux responsabilités. Ils seront dirigeants, patrons d'entreprises, patrons de médias. Et donc, ils risquent aussi d'imposer ces règles-là dans des lieux de pouvoir. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est ce que ça dit de l'avenir.
J'ai tout à fait raison. Donc le combat idéologique, j'ai écouté Manuel Valls qui disait qu'il faut maintenant porter le combat idéologique contre ces gens-là et qui ont noyauté les universités, les IEP depuis des années et qui sont sur des lignes totalitaires. Donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Au travers de l'indigénisme, la racialisation, les attaques contre la France, l'identité française et l'antisémitisme qui est aujourd'hui ouvert.
Oui, hein. Si on ne peut pas déposer plainte, si les plaintes ne servent à rien, on a une ministre ou une secrétaire d'État qui ne sert à rien, qui
mais déjà, que les recteurs remettent de l'ordre, que le corps professoral également remette de l'ordre.
Ils ont la trouille.
Attendez, c'est une minorité dans l'université. La majorité des étudiants ne relèvent pas de ce bord-là. On dit que c'est les minorités qui font l'histoire, mais cette minorité-là, elle doit être stoppée. Elle est parfaitement identifiée. Elle a également son prolongement politique au travers des LFI, sachant qu'il y a quand même deux gauches. Il y a une gauche qui est républicaine, il y a une gauche qui relève de Jaurès, de Blum, de Jacques Julliard.
Politiquement, elle n'existe plus vraiment.
Mais elle renaît quelque part. Alors, ça serait intéressant de voir comment elle va être animée, parce qu'on en a besoin. Pour contrer ces gens-là, il faut aussi que cette gauche-là s'exprime.
Donc on a fait un parallèle et un pont entre la France et les États-Unis. On va marquer une pause, mais je voulais qu'on vous montre quand même cette image. C'est San Francisco, hier, le Golden Gate, le fameux Golden Gate. Hier, il a été bloqué, c'était à peu près vers 21h. Hier soir, totalement bloqué. Vous voyez, les voitures ne pouvaient pas avancer. Et figurez-vous que c'était une banderole, évidemment, pro-palestinienne, qui était ici, voilà, Free World for Gaza. On se retrouve dans un instant. On parlera d'un événement qui s'est passé ces dernières heures à la Knesset. Ce sont les rescapés du festival Nova qui ont donné un chiffre terrible. C'est le chiffre du nombre de suicides. Les suicides après ce festival. Les rescapés se sont donné la mort. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. À tout de suite. La suite du meilleur de l'info, je voulais vous montrer une image. C'est le site du festival Nova Raïm. Des survivants de ce festival martyr attaqué par les terroristes sont revenus hier pour la première fois depuis le massacre. C'était très difficile, évidemment, pour beaucoup. Ils pensaient ne pas y arriver d'abord. Ils pensaient souvent ne pas être capables de revenir dans cet endroit. Beaucoup témoignent de ça, de revoir les lieux qu'ils ont fait cauchemarder et qui continuent à les faire cauchemarder depuis plus de 6 mois. Beaucoup n'ont pas réussi à reprendre le cours de leur vie. Beaucoup racontent vivre comme encore des prisonniers dans une bulle, ne pas arriver à sortir de tout ça. Il est question de dépression et même de suicide. L'un des survivants a témoigné quelques heures devant la Knesset et a lancé un appel à l'aide au gouvernement, gouvernement qui a limité d'ailleurs les aides à ces victimes au mois de mai. Au mois de mai, il y aura normalement les aides sont terminées. On va l'écouter.
Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais on a atteint le chiffre de 50 suicides parmi les survivants du festival Nova. C'est un chiffre qui date d'il y a 2 mois. Il se peut qu'il ait augmenté depuis. Il y a beaucoup de survivants hospitalisés contre leur gré. J'ai beaucoup d'amis qui ne sortent plus de chez eux et restent dans leur lit. Moi-même, je ne sors plus de chez moi. Je ne vois pas comment je vais m'en sortir pour le prochain mois. Les aides et le soutien psychologique s'arrêtent au mois de mai. Notre objectif, c'est de retourner travailler. Et que nous, les survivants, on soit assez courageux pour retourner travailler. Il est hors de question de voir nos amis de nouveau plonger en dépression.
Noémie Lia, ça c'est un vrai débat au sein de la société israélienne, qui est très divisée en réalité, mais là-dessus, il y a unanimité. Le gouvernement a limité les aides. Mois de mai, vous avez entendu, et on ne se sort pas les images de la tête de ce qui s'est passé le 7 octobre, et on comprend d'ailleurs pourquoi, c'est évident. Parce que jamais il n'y a eu une horreur pareille qui s'est déroulée, il faut le rappeler. décapitations, démembrements, des hommes, des femmes tués, violés, etc.
C'est le plus grand massacre antisémite depuis la Shoah. C'est Emmanuel Macron, le président de la République, qui l'a expliqué. C'est un traumatisme qui est profond, qui est enraciné. Tout d'un coup, les Israéliens se sont dit qu'ils n'étaient plus en sécurité chez eux. D'ailleurs, il y a toujours cette phrase qui revient, l'armée n'était pas là, parce que l'armée, c'est la sécurité absolue. Mais c'est surtout d'autant plus marquant, c'est ce chiffre de 50 suicides au moins, de personnes qui n'ont pas réussi à se remettre de cette horreur-là. On connaît la société israélienne et la mentalité de fer des Israéliens, qui par ailleurs sont extrêmement résilients. Je le rappelle, depuis plusieurs années, Israël figure parmi les pays dont la population se dit la plus heureuse du monde, dans les 5 pays qui est le plus heureux au monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un pays qui, de toute façon, généralement, malgré le climat de guerre depuis le début de son existence, eh bien, c'est une population extrêmement résiliente, extrêmement forte. Mais là, il s'est passé quelque chose dont on n'arrive pas à se relever. Il s'est passé quelque chose de traumatisant, une déchirure. Et évidemment, pour ceux qui l'ont vécu dans leur chair, dans leur histoire, c'est peut-être un événement dont on ne peut pas se défaire jamais dans sa vie.
Même quand on est militaire, très difficile. Mais pour des civils, parce que c'était des civils, c'était des jeunes gens.
Non, mais c'était l'horreur absolue. Ce qui est important, c'est qu'au travers de ce témoignage, de dire à l'opinion publique, notamment française, mais pas simplement, qu'elle n'oublie pas. Hein, parce qu'il y a des actions de déstabilisation qui visent à brouiller la perception des choses. Donc les choses sont très claires et nettes. Il y a eu un acte de barbarie qui a atteint le paroxysme. Et donc il faut dire les choses et bien sûr soutenir les victimes, ceux qui ont échappé de ce massacre. Et également bien rappeler qu'Israël a le droit de se défendre.
Oui, mais de cette attaque, de ce pogrom, de cette horreur, de cette barbarie, 6 mois après, on n'entend plus que le mot de génocide. On n'a plus que des attaques contre Israël. Alors, ça a changé, c'est vrai, ce week-end. Les choses ont changé. Benjamin Netanyahu, Israël
sont
devenus.
C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut qu'il y ait une réflexion de fond, hein, s'agissant de la façon dont Israël va riposter. Israël doit riposter. Mais Israël doit tenir compte du soutien massif des opinions publiques, mais également du fait que les pays environnants ont bien compris que la véritable menace, elle venait de l'Iran. Et donc tout ça doit être intégré dans l'équation. Et bien entendu, pour revenir à ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est le rappeler à l'opinion publique française, à l'opinion publique américaine, qui a aussi travaillé. Et là, on revient sur... des acteurs dans l'université qui font tout pour inverser les choses, hein, et blâmer Israël. Dans ce qui s'est passé là, un autre pays aurait réagi encore peut-être plus durement que ne l'a fait Israël.
Mais vous avez remarqué qu'on ne fait que ça, inverser les choses. Dans les facs, on inverse les choses et également quand on dénonce ceux qui ne sont pas pro-palestiniens. C'est, on inverse.
Mais derrière, vous avez
LFI également, vous passe avez... son temps à inverser,
et
à inverser
derrière, les vous choses. Avez quasiment, et de façon très claire, la remise en cause de l'État d'Israël.
Vous savez, Israël est vraiment le bouc émissaire de la modernité. Hein. C'est-à-dire que c'est le coupable par excellence. Même lorsqu'il se défend, il est coupable. Même lorsqu'il est attaqué, il est coupable. Il est toujours coupable, quoi qu'il fasse, si vous voulez. C'est pour ça qu'à un moment donné, et ils vous expliquent très bien ça, les responsables israéliens, maintenant, ce que pense le reste du monde, on s'en fiche.
Okay,
on va agir, on va
coupables.
Se défendre.
Écoutez,
quoi
moi,
qu'il arrive,
je vais souvent
même
la
si
la France est coupable, quoi qu'elle fasse. Donc, si vous voulez. C'est, à mon avis, c'est plus.
Non, la France n'est pas attaquée de la même façon, et encore heureux d'ailleurs. Il ne s'agit pas de voir qui est le plus attaqué, mais il s'agit de dire qu'il y a un rapport à Israël qui est malheureusement complètement obsessionnel et compulsif, et qui est spécifique à ce petit pays qui concentre moins de 1% de la population mondiale. C'est ce caractère assez exceptionnel de l'obsession et de la détestation qui est.
C'est vrai également, mais la détestation de soi, la France, la façon dont on est coupable de tous les maux de notre passé, de tout ce qu'on a pu transmettre, c'est aussi assez intéressant. Et je reviendrai sur
absolument,
M. Taïeb qui disait
c'est l'Occident.
Quand même que lorsqu'on attaque les Juifs en France, on attaque la France.
Vous avez entièrement raison, bon. C'est pour ça peut-être qu'on dit souvent qu'Israël, finalement, concentre Israël et le super Occident. Mmh. Évidemment, à travers Israël, on déteste aussi.
On rappelle, comme tous les soirs, qu'il y a 133 otages, dont 3 franco-israéliens offerts au roi d'Orient, dont nous demandons depuis 194 jours la libération sans condition. Je voulais qu'on écoute une dernière fois Georges Bensoussan. Encore une fois, il était interrogé ce matin dans la grande interview. Sonia Mabrouk.
Depuis des décennies, ces gens-là disent à l'État d'Israël et aux Israéliens, vous devez disparaître de la surface de la Terre.
Ils le disent, mais dans quelle mesure ont-ils les moyens de le faire ?
Ils ont les moyens de le faire demain. Ils ont prouvé ici, en franchissant un seuil, en envoyant 300 engins, qui n'étaient pas équipés de fleurs, mais qui étaient équipés de 60 tonnes d'explosifs. Si ces engins n'avaient pas été arrêtés à 95%, il y aurait eu des milliers de morts en Israël. Donc on est ici en présence d'un acte de guerre extrêmement grave, sur le fond. Donc la menace génocidaire, ce n'est pas un fantasme d'Israélien ou un fantasme de juif obsédé par la Shoah, c'est une réalité qui est dite clairement par les tenants du régime iranien, dont je rappelle que c'est un régime où le négationnisme est une idéologie d'État, où l'antisémitisme aussi.
Bon, vos propos rejoignent évidemment ceux de Georges Bensoussan. Dernière petite chose, parce qu'il nous reste moins de deux minutes. La position américaine, que peuvent faire les Israéliens sans les Américains? Est-ce que sans les Américains, la réussite était de 99%? Est-ce que demain, en cas de riposte, à la riposte, on aurait le même résultat? Est-ce que les Américains sont aussi forts que l'on dit aux côtés d'Israël?
Les Américains restent vraiment le pilier de la sécurité de la région, et notamment d'Israël. Alors, Israël a bien développé ses capacités, mais il n'a pas de profondeur stratégique.
Donc, seul, est-ce qu'Israël aurait eu ce résultat?
Pas tout à fait. Il y a eu quand même des destructions, des neutralisations au-dessus de la Jordanie, au-dessus de l'Irak. Maintenant,
je repose la question différemment. Est-ce que demain, il y a ce genre d'attaque, avec les essaims de drones, etc., on a le même résultat? Est-ce que les Américains sont aujourd'hui capables de fournir la même aide que celle qu'ils ont fournie samedi?
Ça a été posé. Joe Biden, il a quand même dit ses conditions.
Non, mais ils défendront quand même Israël. Ils défendront comme Israël, mais ils demandent.
Mais ils ne soutiendront pas une attaque massive de la part d'Israël.
Mais ils défendront d'Israël. Et Israël doit tenir compte de l'attitude de ses alliés.
Absolument.
Voilà, donc c'est.
Israël sera obligé de tenir compte de la position.
Mais ce qui s'est passé est extrêmement intéressant parce que ça rabat complètement. Les cartes diplomatiques avec également des pays voisins qui voient quand même l'Iran comme étant capable de leur porter des coups très sévères.
Il y avait de l'eau dans le gaz d'ailleurs entre Joe Biden et Netanyahu. Bon. On se souvient de pics qui étaient lancés de part et d'autre, etc. Donc oui, ça a complètement remodelé aussi le jeu politique et diplomatique.
Bon, alors on se parle, Washington n'a pas été informé de la suite des opérations par Israël. Et puis, dernière chose, le Kremlin a aujourd'hui publié un communiqué pour indiquer que le président iranien avait assuré à Vladimir Poutine lors d'un entretien téléphonique que les frappes de Téhéran contre Israël étaient limitées et que la République islamique ne souhaitait pas d'escalade. C'est ce qu'on peut espérer, mais est-ce qu'on peut croire le Kremlin? Est-ce qu'on peut croire la Russie? Est-ce qu'on peut croire ce genre de communiqué? Ce sera le mot de la fin.
Il leur arrive de mentir comme des arracheurs de dents.
Vous ne commentez pas?
Non, parce qu'il y a plus rien à commenter s'agissant des discours actuellement de
Vladimir Poutine et du Kremlin, je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup à tous les deux. Dans un instant, la suite, c'est évidemment Soir Info, Julien, parce que 22h30, avant ça, dans une dizaine de minutes, vous avez rendez-vous avec Mauril Vidal. Et je vous remercie ce soir Valérie Ackman et Yael Benamou de m'avoir aidé à préparer cette émission. Bye bye, on se retrouve demain soir.